Nous sommes le mardi 2 juin. Bienvenue pour ce nouveau journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Oh Ha-young et de Baptiste Morigel.
À la une, aujourd'hui, J-1 avant les élections locales et législatives partielles, les partis politiques tentent de convaincre une dernière fois les indécis. Nous évoquerons également la rencontre Corée-Afrique, tournée vers un renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et le continent africain. Et nous terminerons par une exposition spéciale du Musée national des palais de Corée, célébrant les 140 ans des relations diplomatiques entre la Corée et la France.
Nous ouvrons cette édition avec les élections locales et les législatives partielles, avec les ultimes tractations pour convaincre les électeurs encore indécis.
Exactement, les Sud-Coréens sont appelés aux urnes demain, alors les candidats et leurs partis sont entrés dans leur dernier jour de campagne avec pour objectif de gagner des voix précieuses. Le Minjoo a ciblé les circonscriptions où les résultats s'annoncent serrés. Son patron, Chung Chung-lee, s'est ainsi rendu à Jongsun et à Yongwol dans le Gangwon, puis a regagné Séoul pour donner une conférence de presse appelant à un vote conscient. Il a conclu la campagne du parti au pouvoir à Yongin, dans le Gyeonggi et dans la capitale. Le numéro 2 de la formation présidentielle, Han Byung-do, s'est lui déplacé dans le Jeolla du Nord pour appeler les électeurs à voter pour le candidat du parti au poste de gouverneur de la province. Du côté du parti du pouvoir du peuple, son président Jang Dong-hyuk a débuté la journée dans la capitale où il a lancé un appel à la nation. Puis il s'est rendu dans le Gyeonggi et dans le Chungcheong. Pour sa part, le chef du groupe parlementaire de la principale force de l'opposition, Song Eun-sok, a tenté de fédérer l'électorat conservateur à Daegu, à Busan et dans le Gyeongsang du Sud, les fiefs traditionnels de sa formation.
Et en parallèle, le chef de l'État est revenu sur sa première année à la tête du pays lors du Conseil des ministres ce matin.
Jeudi, ça fera très exactement un an jour pour jour que Lee Jae-myung a pris ses fonctions de président de la République. Il a donc fait le point sur le bilan de sa première année à la tête du pays et recentré ses priorités pour le reste de son mandat. Il a affirmé poser actuellement des bases solides pour la normalisation du pays ainsi que pour son nouvel essor. Il a promis d'apporter dorénavant des changements substantiels plus importants dans la vie des Sud-Coréens, de manière plus rapide et plus large, en se basant sur les résultats obtenus jusqu'à présent. Pour ce faire, il a préconisé de nombreuses mesures qui visent notamment à faire bénéficier aux PME, aux petits commerçants ainsi qu'aux classes modérées et vulnérables des effets des indicateurs clés de l'économie, plus particulièrement ceux des exportations. Le chef de l'État s'est également engagé à consolider les fondements matériels et institutionnels en vue d'accélérer la révolution de l'intelligence artificielle et la transition énergétique, ainsi qu'à augmenter la vitesse du développement de l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi des autres filières de pointe comme la robotique et l'armement, afin de faire de la Corée du Sud à terme une des puissances économiques inégalables. Lee Jae-myung a en outre plaidé pour la croissance pour tous et pour le renforcement du rôle de la Corée du Sud dans l'arène diplomatique et sécuritaire mondiale. Il a ainsi souligné la nécessité de stabiliser l'inflation. Il a ensuite donné des instructions à ses ministres de préparer rapidement les mesures nécessaires et de mener des enquêtes exhaustive sur toute pratique de perturbation des marchés comme les ententes illicites. Enfin, le président a réitéré son souhait de devenir un chef d'État soutenu et apprécié par le peuple à la fin de son mandat plutôt qu'à son début.
Venons-en à présent aux suites de l'explosion survenue hier sur le site de l'entreprise de défense Hanwha Aerospace à Daejeon, faisant 5 morts et 2 blessés.
Le premier ministre Kim In-suk s'est rendu hier après-midi sur place où il était briefé par un responsable des services de secours sur les dégâts causés par l'accident. Il a ensuite ordonné au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'à celui du Travail d'enquêter de manière rigoureuse sur ces causes et de garantir le soutien nécessaire aux familles des victimes et aux blessés. Aujourd'hui, le président de la République a déploré un nouvel accident mortel survenu sur un lieu de travail. Il a ajouté se demander si, dans la société, la priorité était réellement accordée à la vie plutôt qu'à l'argent. Lee Jae-myung a également ordonné de mener une enquête rigoureuse sur les causes de l'accident, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise et d'effectuer rapidement une inspection de sécurité sur les sites industriels similaires à celui où l'accident a eu lieu.
Quelle a été la réaction de Hanwha Aerospace ?
Eh bien, dans un communiqué publié hier également, Récemment, le groupe hanois a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un rapide rétablissement des employés blessés, tout en promettant de prendre en charge leur traitement médical. La maison mère de Hanwha Aerospace a également présenté ses excuses à la population en s'engageant à mener une enquête approfondie sur les causes de l'accident afin d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Le conglomérat a également fait savoir qu'une cellule spéciale de gestion de crise serait créée au niveau du groupe. Par ailleurs, les deux principales centrales syndicales du pays ont elles aussi réagi. La Confédération coréenne des syndicats a critiqué Hanwha Aerospace pour ses défaillances en matière de sécurité, rappelant que des accidents mortels similaires s'étaient déjà produits sur son site en 2018 et en 2019. Elle a ensuite réclamé une punition sévère contre les responsables de ce drame en vertu de la loi sur les sanctions concernant les accidents graves du travail. La Fédération nationale de syndicats coréens a, pour sa part, exigé une inspection complète des systèmes de contrôle de sécurité et de prévention des accidents au sein de l'entreprise.
Et ce qui nous intéresse, c'est où en est l'enquête?
Les autorités ont entamé ce matin une inspection conjointe sur place. L'opération réunit 34 personnes relevant de la police, des services d'incendie et de secours, du Service national de police scientifique, du ministère du Travail ainsi que de l'Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail. Les familles des victimes ont également été invitées à y assister. Les inspecteurs chercheront notamment à identifier le point de départ du feu et vérifieront également si le stockage de substances dangereuses sur le site était conforme aux règles de sécurité. Ils ont fait savoir qu'aucune piste n'était écartée, promettant une enquête rapide fondée sur des preuves objectives.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Dans l'actualité également, les échanges entre la Corée du Sud et l'Afrique avec une réunion des ministres des Affaires étrangères hier.
Le gouvernement sud-coréen l'a organisé hier à Séoul sous le thème « Partenariat Corée-Afrique pour une réponse conjointe à la transition mondiale ». Elle a réuni les chefs de la diplomatie ou les représentants d'une cinquantaine de pays africains et de la Corée du Sud, ainsi que les dirigeants de quatre institutions panafricaines, à savoir l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la zone de libre-échange continentale africaine et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Présidée par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choyon, la rencontre s'est articulée autour de deux sessions. La première, consacrée au projet de coopération économique entre la Corée du Sud et l'Afrique dans les domaines du commerce, de l'industrie, des infrastructures et de la sécurité alimentaire. La seconde, tournée vers la réponse commune aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les crises sanitaires ainsi que les questions de paix et de sécurité. À l'issue de la réunion, une déclaration conjointe a été adoptée afin d'exprimer la volonté des participants d'approfondir leur coopération, notamment dans les domaines des routes maritimes et des ressources, y compris les minéraux critiques dont l'importance stratégique du continent africain a été reconnue. Le document réaffirme également l'engagement des deux parties à mettre en œuvre les résultats du sommet Corée-Afrique tenu en 2024 en Corée du Sud et salue la proposition de Séoul d'organiser une nouvelle édition en 2029.
Aujourd'hui, un forum d'affaires et une rencontre avec Lee Jae-myung étaient au programme.
Oui, quelques 300 représentants des milieux industriels, gouvernementaux et diplomatiques se sont retrouvés sous l'égide du ministère sud-coréen des affaires étrangères. Les discussions ont notamment porté sur la coopération liée aux chaînes d'approvisionnement. De son côté, le président de la République a reçu cet après-midi une vingtaine de responsables africains de rang ministériel ainsi que des représentants d'organisations régionales dont l'Union africaine pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique. À cette occasion, Lee Jae-myung a déclaré que le continent africain possède un fort potentiel de développement et qu'il est regrettable que Séoul ne lui ait pas suffisamment portez attention jusqu'à présent.
Et nous terminons ce journal avec une exposition proposée par le Musée national des palais de Corée, célébrant les 140 ans des relations diplomatiques entre la Corée et la France.
Intitulée « Cadeaux et archives, 140 ans d'amitié franco-coréenne », elle se tiendra à partir de demain jusqu'au 2 août en collaboration avec les archives présidentielles relevant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Environ 160 objets illustrant l'histoire des relations bilatérales, notamment des cadeaux officiels, des lettres et des documents remis entre les deux pays, seront présentés au public. Et pour la première fois, les visiteurs pourront observer l'original du traité d'amitié de commerce conclu entre le royaume de Joseon et la France en 1886 et signé la nuit suivante par le roi Gojong. L'exposition présentera aussi une bouteille en poterie offerte par un officier coréen à un diplomate français venu porter secours aux marins du baleinier français le Narval échoué sur l'île Bigumdo. Enfin, de nombreux cadeaux ainsi que des correspondances échangées entre les présidents sud-coréens et français attendent aussi les visiteurs.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous également sur www.kbs.co.kr/french. Tout de suite, c'est au jour le jour, présenté par Clément Charles.